Excellent réveil aussi à Margot Delpierre qui vous présente le journal. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Sinn Féin devient la deuxième force au Parlement irlandais. Les résultats se sont précisés dans la nuit après les élections législatives. Nous ferons le point en direct avec notre correspondant à Londres.
Beaucoup de monde hier soir au meeting de Bernie Sanders dans le New Hampshire aux États-Unis. Cet État vote aujourd'hui pour la primaire démocrate, compte rendu à suivre.
Il fuit les combats entre rebelles et loyalistes. Depuis décembre, 700 000 Syriens ont fait route vers le nord-ouest de leur pays. Il s'agit d'une des pires crises humanitaires du 21e siècle.
Et puis c'est un sujet tabou, celui du recours aux assistants sexuels pour les personnes handicapées. C'est de nouveau un sujet sur la table, on vous explique pourquoi.
Des femmes qui ont subi des effets indésirables à cause de l'implant contraceptif Essure demandent des comptes à l'État. Elles réclament une indemnisation. Cet implant a été retiré du marché. Et après le journal, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, handicap, la France doit-elle s'inspirer d'expériences menées à l'étranger? On posera la question à Charles Gardou. Il est anthropologue et professeur à l'université Lumière Lyon 2.
Les résultats définitifs des législatives sont tombés cette nuit en Irlande et juste derrière le parti de centre-droit, le Fianna Fáil, on retrouve le Sinn Féin, les républicains partisans de la réunification de l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande deviennent la deuxième force du Parlement, Antoine Gignot.
Absolument, 37 sièges pour le Sinn Féin, juste derrière les centristes du Fianna Fáil. C'est le meilleur résultat depuis près d'un siècle. Le signe surtout que pour un quart des Irlandais, le parti a cessé de faire peur. L'ancienne vitrine politique de l'IRA, longtemps ostracisée, exclue des alliances et du gouvernement, est aujourd'hui particulièrement plébiscitée par les jeunes, les 18-24 ans qui n'ont jamais connu ni attentat ni affrontement. Ils sont nés après le cessez-le-feu de 1994. Pendant la campagne, Marie-Lou MacDonald, la chef de file du parti, ne leur a d'ailleurs que très peu parlé de réunification, de lien entre le Nord et le Sud. Elle a axé toute sa campagne sur le manque de logements et le manque de moyens des hôpitaux. Elle parle ce matin d'une victoire historique et laisse entendre qu'elle se verrait bien chef d'un gouvernement de coalition.
On se dirige donc vers une coalition, mais le Sinn Féin pourrait ne pas gouverner.
Et c'est tout de même une possibilité, oui, parce que aujourd'hui, personne n'a suffisamment de sièges pour gouverner. Il va donc falloir nouer des alliances. En théorie, les deux grands partis centristes peuvent former une coalition, comme ils l'ont fait ces dernières années, embarquer avec quelques députés d'un parti minoritaire, se partager le pouvoir et exclure le Sinn Féin. Marie-Lou MacDonald, à l'inverse, espère trouver un accord avec les petits partis de gauche et les indépendants pour former une coalition dont seraient totalement exclus le Fine Gael et le Fianna Fáil, à moins que l'une des deux formations accepte de partager le pouvoir. Mais jusqu'ici, les centristes ont toujours refusé de travailler avec le Sinn Féin. Ce qui est sûr, c'est que Leo Varadkar, le Premier ministre, va devoir laisser sa place. Il a pourtant mis en avant dans sa campagne les résultats économiques du pays, la croissance, le très faible taux de chômage, son efficacité dans les négociations du Brexit, mais sans réussir à convaincre. Combien de temps va-t-il falloir désormais pour former un gouvernement? C'est toute la question. Il avait fallu, en 2016, 2 mois au total.
Antoine Gignot, correspondant de France Culture au Royaume-Uni. Les élections avaient lieu samedi dernier. Dans le New Hampshire, sur la côte est des États-Unis, les Américains voteront aujourd'hui pour choisir leur candidat démocrate dans la course à la Maison-Blanche. C'est le deuxième État à voter après l'Iowa. Deux favoris se distinguent d'après les sondages, l'ex-maire centriste Pete Buttigieg et le sénateur socialiste Bernie Sanders. Il y a 4 ans, ce dernier avait remporté dans cet État plus de 60% des voix. Hier soir, il donnait un grand meeting accompagné d'un célèbre groupe de rock sur place Isabelle Raymond.
Bernie Sanders s'est offert des chauffeurs de salles de luxe pour son dernier meeting dans le New Hampshire. De quoi attirer beaucoup de jeunes, mais pas que, et parfois venus de très loin. Ainsi, Jesse, 37 ans, arrive du Texas.
J'ai
pris 2 avions aujourd'hui pour voir Bernie et les Strokes. Ça fait un long voyage, mais ça vaut le coup, c'est sûr. Surtout que Bernie Sanders a chargé l'élu démocrate, sans doute la plus populaire auprès des jeunes, le soin de l'introduire sur scène. Alexandria Ocasio-Cortez, 30 ans, élue démocrate de New York et metteuse d'ambiance hors pair. Parmi les candidats, demande-t-elle, n'a jamais accepté l'argent des grandes entreprises. Qui le premier a proposé que la santé soit un droit pour tous? Bernie Sanders peut maintenant commencer son discours.
Thank you, Noam.
In case you haven't noticed, there are a lot of people here tonight.
Il y a trois fois plus de monde ici ce soir, dit-il, que dans tous les autres meetings démocrates. C'est probablement vrai.
Bernie Sanders, qui a été battu de justesse par Pete Buttigieg dans l'Iowa, des résultats révisés après une erreur informatique. Cette fois dans le New Hampshire, les électeurs voteront de façon plus traditionnelle à bulletin secret. Le coronavirus a fait plus de 1000 morts en Chine, une barre symbolique franchie aujourd'hui après l'annonce de 103 nouveaux cas dans la province du Hubei. Plus de 42 000 personnes sont contaminées dans le pays. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. La Turquie a annoncé hier soir avoir neutralisé une centaine de soldats du régime syrien. Une réponse à la mort de 5 soldats turcs. Des affrontements meurtriers qui ont eu lieu à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, près de la frontière. En 2 mois, les violences dans cette région ont provoqué le déplacement de 700 000 personnes, selon l'ONU. Le point avec Omar Waman.
Ils ont fui dans la panique, pris tout ce qu'ils pouvaient prendre et s'entassent désormais le long de la frontière turque. Fared Al-Or, un journaliste syrien, témoigne via la messagerie WhatsApp depuis le village de Salkin, au nord-ouest de la ville d'Idlib.
Actuellement, la situation est tragique. Il y a des familles qui dorment dans la rue. Les gens ont nulle part où aller, il n'y a pas de camp, pas de tente, ils sont livrés à eux-mêmes. Certains sont réduits à dormir dans des maisons en ruine, sans porte, sans fenêtre, alors qu'il fait très froid. La nuit, il fait moins 3, moins 4 degrés.
La communauté internationale assiste impuissante à ce désastre. Seules les ONG, comme le Comité norvégien pour les réfugiés, tentent de se faire entendre pour réclamer une trêve immédiate. Jan Egeland, son secrétaire général.
Il n'existe pas d'autres endroits au monde où il y a autant de vie en jeu. En fait, la région d'Idlib est devenue un gigantesque camp de réfugiés. Ce sont des déplacés venus de toute la Syrie. C'est aussi à Idlib que l'on trouve de nombreux combattants évacués ces dernières années de plusieurs régions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a davantage de bébés à Idlib que de mauvais gars.
Mais le régime de Bachar el-Assad, déterminé à en finir avec les rebelles, fait la sourde oreille au risque de provoquer la pire crise humanitaire du 21e siècle.
Leurs peines de 15 ans de prison ont été confirmées en appel hier soir. Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président algérien et 2 anciens patrons du renseignement dans le pays, étaient jugés depuis dimanche pour complot contre l'autorité de l'armée et de l'État.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Emmanuel Macron préside aujourd'hui une conférence nationale du handicap.
Un événement qui se tient à l'Élysée, 15 ans exactement après l'adoption d'une loi majeure pour l'égalité des droits et des chances. À cette occasion, le débat sur le recours aux assistants sexuels pour les personnes handicapées est rouvert. Le gouvernement y est favorable, mais en 2012, le Comité consultatif national d'éthique s'y était opposé au nom du principe de non-utilisation marchande du corps humain. Une question en tout cas délicate et qui ne fait pas l'unanimité dans les associations, Diane Berger.
Avoir une vie sexuelle quand on vit avec une paralysie importante, de l'autisme ou une malformation, c'est parfois difficile, voire impossible pour certaines personnes handicapées. Et les aider, c'est l'objectif de l'APAS. L'APAS, Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Gilles Prévenus, sa présidente, a elle-même fourni ce service hors de tout cadre légal pendant plusieurs années.
On met en relation quotidiennement des personnes en demande et des personnes qui pratiquent cette activité. Et on a vraiment de bons retours. Ça va servir à ce que la personne se réapproprie son propre corps, comment il ou elle peut donner du plaisir, comment il ou elle peut en recevoir également, par le contact des corps, se réapproprier sa sensualité, sa sexualité.
Un service à caractère sexuel, assimilable donc à de la prostitution, Gilles Prévenus l'assume, mais cette idée hérisse d'autres associations comme Femmes pour le dire, Femmes pour agir, spécialisées dans le soutien aux femmes handicapées. Claire de Saint, sa vice-présidente, y voit une fausse solution.
C'est plus facile d'envoyer quelqu'un chez des personnes qui ont difficulté à se déplacer, qui sont chez elles, que de faire le travail nécessaire pour que la société soit accessible. L'ouverture et l'accessibilité de l'environnement, pour nous, sont la vraie solution au problème de la sexualité pour les personnes handicapées, qu'elles puissent rencontrer des personnes, qu'elles puissent aller et venir partout. Encore une fois, on leur fait quelque chose de spécifique qui les laisse de côté chez eux, au lieu que l'on fasse tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent sortir.
Et elle s'inquiète enfin qu'une autorisation de l'assistance sexuelle pour les personnes handicapées ouvre la brèche pour une dépénalisation des clients de toute forme de prostitution.
Et à l'occasion de la conférence nationale du handicap, nous en reparlerons juste après ce journal. La France doit-elle s'inspirer d'expériences menées à l'étranger sur ce sujet? C'est la question du jour. Après une polémique sur la durée du congé pour deuil d'un enfant, les députés LREM vont proposer aujourd'hui, en réunion de groupe à l'Assemblée, un congé universel de 3 semaines pour tous les actifs. Il y a 10 jours, l'Assemblée nationale a rejeté une proposition des députés UDI Agir. Elle visait à porter de 5 à 12 jours ce congé. En commission spéciale sur les retraites hier soir, les députés ont adopté l'article qui maintient l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, tout en ajoutant la notion d'âge d'équilibre pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Elles avaient déjà porté plainte contre X pour blessures involontaires. Cette fois, elles attaquent l'État. Des femmes se battent contre l'implant contraceptif Essure visant à la stérilisation. Il a été retiré du commerce il y a environ 3 ans par le laboratoire Bayer après avoir été prescrit à 175 000 femmes. De nombreuses ont subi des effets indésirables. Elles réclament à l'État une indemnisation, sinon elles porteront plainte devant la justice administrative. Témoignage recueilli par Mathilde Imberti.
Françoise Van Musen, 50 ans bientôt, a vécu un enfer, dit-elle. 8 années avec l'implant contraceptif Essure, prescrit pour ne plus avoir d'enfants et éviter la pilule.
C'est très insidieux. Ça évolue un petit peu comme un poison à bas bruit qui entraîne progressivement de la fatigue qui n'est pas expliquée, qui s'aggrave, des douleurs pas expliquées qui s'aggravent. Mis sur le compte la plupart du temps de la préménopause ou de l'âge, des céphalées, une diminution des capacités cognitives, capacités physiques. J'étais chirurgienne de la main, chirurgienne reconstructrice. Du fait de tous ces problèmes de santé, j'ai dû arrêter en 2015.
Puis elle se bat pour disposer de l'implant enfin retiré et le confie à un laboratoire indépendant, le laboratoire minéralogique Minapat, dirigé par le médecin Michel Vincent. Il identifie clairement des particules toxiques dans son corps.
On s'est aperçu que, en fait, il y avait une érosion majeure d'une soudure qui était dans cet implant Essure, parce qu'il y a un gros ressort qui est soudé à un petit ressort avec une soudure qui était en étain. Et on s'est aperçu qu'on trouvait plein de particules d'étain dans son tissu de la trompe utérine qui correspond à cette érosion anormale de l'implant.
Aujourd'hui, selon les femmes qui s'en disent victimes, c'est à l'État de les indemniser et de prendre en charge les conséquences.
Les transports scolaires sont en partie annulés. En Corse, l'activité portuaire est suspendue à Bastia à cause de la tempête Ciara. La Haute-Corse et la Corse du Sud sont en vigilance orange au vent violent, comme les Alpes-Maritimes. La Seine-Maritime et l'Eure sont surveillées en raison de crues sur la Seine. De la pluie, sinon, est attendue presque partout en France aujourd'hui et toute la journée. Bah, plus de 8 degrés à Lille et Strasbourg, 9 à Paris, 13 à Bordeaux et 15 degrés à Marseille, Guillaume.
Merci Margot Delpierre.